Beaucoup de choses ont déjà été dites ce matin. Beaucoup de choses concernant le repas du Seigneur, le fait de s'examiner soi-même. Beaucoup de choses dans l'étude de Justin qui nous montrait quelles étaient les qualités des premiers chrétiens, comment l'évangile était transmis, les persécutions qui s'en suivaient. Vous savez que quand je désigne du doigt quelqu'un, lui fait ceci, lui fait cela, j'ai un doigt qui va vers la personne et j'en ai trois qui viennent contre moi. C'est-à-dire, c'est très bien plutôt que de viser l'autre, de regarder déjà soi-même, s'examiner soi-même. Manuel en a parlé, dans le fait déjà de prendre le repas du Seigneur. Je regardais l'autre soir un film sur des loups, un très beau film avec des très belles prises de vue avec des loups. Et ça m'a fait penser à une histoire qui est celle-ci. Un soir, un vieil Amérindien raconte à son petit-fils que chaque personne a en lui deux loups qui habitent en lui, qui se livrent bataille. Et il lui dit, « Mon fils, il y a une bataille entre deux loups à l'intérieur de nous tous. L'un de ces loups, c'est le mal, c'est l'orgueil, la colère, la convoitise, la jalousie, la morosité, le regret, l'avidité, l'arrogance, le rejet, l'infériorité, le mensonge. L'autre loup, eh bien, c'est le bien. C'est la joie, la paix, l'amour, l'espérance, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. » Alors le petit garçon réfléchit à cette histoire pendant quelques instants et il demanda à son père, « Mais dis-moi, grand-père, lequel de ces deux loups gagne s'il se livre bataille ?» Et alors le vieil Indien lui répondit, « Simplement, c'est celui que tu nourris. C'est celui que tu nourris, celui à qui tu donnes à manger. » Il est facile de voir que le mauvais loup, quand on transpose ceci à la Bible, sont les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est le monde. Dans le passage qu'Angèle vient de lire, ça rapporte au péché. Et bien sûr que le bon loup serait plutôt le fruit de l'esprit qu'on peut trouver dans Galates chapitre 5. Et ce sont, bien sûr, les vertus qui viennent de Dieu. Et on peut très bien comprendre que si on nourrit un des loups, que ce soit n'importe lequel, il va devenir puissant, et si on ne le nourrit pas, ou si on le nourrit peu, il va s'affaiblir et aussi mourir. Alors lequel de ces loups nourrissons-nous en nous ? Le bon ou le mauvais loup ? La réponse peut-être n'est pas facile. Dans mon cas, je pourrais dire que je nourris les deux. Peut-être que vous aussi, plus ou moins, selon les circonstances de la vie, nos attirances du monde, nos activités qui sont dans l'Église, et dans tel ou tel cas, on va avoir tendance à nourrir un loup plus que l'autre. Mais vous savez, rassurez-vous, nous ne sommes pas seuls. La Bible va donner plein d'exemples de personnes qui nourrissaient les deux loups qui étaient en eux. Les loups, vous savez, ce sont nos cœurs. Ce n'est pas la pompe qui envoie le sang dans notre corps, mais le cœur dont on parle dans la Bible, c'est le siège de nos émotions, le siège de nos sentiments, le siège de nos décisions, le siège de notre foi. Et la parole va les désigner, ces loups, sous les noms suivants. Dans beaucoup d'exemples, dans l'Ancien Testament surtout, on trouve qu'il est question de cœur partagé, d'âme partagée. Âme et cœur sont similaires. Pour différentes raisons qu'on peut résumer par le péché. L'orgueil, l'obstination, amour de l'argent, manque de foi, séduction, hypocrisie, enfin on peut imaginer, vous connaissez ceci bien mieux. Le cœur partagé. Ou alors c'est désigné sous le terme d'un cœur double. Un cœur pour Dieu et un cœur pour le monde. Un cœur tiède, où le bon n'est pas assez nourri, qui manque de force, qui manque de zèle pour Dieu. Aussi on trouve le cœur obstiné, où là c'est un cœur qui est mal nourri, qui provoque le durcissement de ce cœur envers Dieu. Alors bien sûr, quand on regarde toutes ces pathologies, nous pouvons voir que tous ces cœurs sont des cœurs qui sont des cœurs malades. Matthieu chapitre 15, verset 8, nous dit ceci. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. » C'est une citation qui vient de Ésaïe chapitre 29. Et normalement, un chrétien devrait avoir dans l'idéal un seul cœur en bonne santé, un cœur intègre, et de pouvoir seulement avoir le bon loup qui habite en nous. Alors comment est-ce qu'on peut se reconnaître malade ? Manuel nous en a parlé avant dans le repas du Seigneur, et c'est quelque chose qui est très important, je pense, c'est le fait de s'examiner soi-même. Je pense que comme quand on ressent, quand on n'est pas bien et tout, on dit « mais qu'est-ce que j'ai ? Il y a quelque chose en moi qui cloche, je ne suis pas très bien, je suis un peu malade, de quoi ça peut venir ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi ?» Et cet examen, le fait de s'examiner soi-même dans le repas du Seigneur, et cette procédure, ce processus à faire, mais de manière spirituelle. Qu'est-ce qui va dans ma vie ? Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie ? Manuel en a parlé, est-ce que j'ai commis des péchés ? Lesquels ? Pourquoi ? Alors qu'on doit être en harmonie, alors qu'on doit être en communion les uns avec les autres, qu'on doit être en paix les uns avec les autres, on doit pouvoir aimer nos frères, tous nos frères, qu'il ne doit pas avoir d'hypocrisie. Il y a déjà un bon moyen de pouvoir s'examiner soi-même et de regarder qui nous sommes, quels chrétiens nous sommes, et si nous répondons vraiment aux attentes de Dieu. Mais on a parfois, vous savez, des maladies qu'on ignore. Parfois, on ne ressent rien, ça va bien, oui, ça c'est très bien, je suis en bonne santé, etc. Et en fait, peut-être qu'on est malade. Et à ce moment-là, c'est un médecin ou un spécialiste qui doit examiner, qui doit analyser et diagnostiquer la maladie. J'imagine un médecin qui serait un peu un cardio-spiritologue qui peut aller voir votre cœur et tout ça, qui analyse, etc., et qui voit en vous, qui dit « Ah, mais j'ai une mauvaise nouvelle, monsieur. Je dois vous annoncer que vous avez un cœur partagé. » « Ah bon ? J'ai un cœur partagé ? » Oui, puis de temps en temps, vous avez aussi un cœur tiède. Vous avez un cœur dur. Ou vous avez un cœur obstiné. Ah bon ? Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour soigner ceci ? Et vous savez que le médecin pourrait être... Qu'est-ce que ça pourrait être ? Je pense que ça pourrait être des frères dans la foi, des sœurs dans la foi. Peut-être qu'ils voient, si vous ne voyez pas votre maladie, mais peut-être que peut-être eux, ils les voient en vous, peut-être dans votre comportement, peut-être dans votre façon d'être, mais toujours avec amour, n'est-ce pas ? Pas critique, pas hypocrisie, pas parti pris. Et le traitement ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Eh bien, si quelque chose ne va pas, eh bien, demandez pardon, repentez-vous. Se repentir, ça veut dire de décider de ne plus nourrir le mauvais loup, mais décider de nourrir le bon. Jacques chapitre 4, versets 7 à 10, nous dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu. Souvent, lorsque nous nourrissons le mauvais loup, c'est que nous ne nous soumettons pas à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs. Purifiez, ça aussi, c'est quelque chose pour se nettoyer. Purifiez vos mains, spirituellement bien sûr. Et nettoyez vos cœurs, âme partagée. Nettoyez vos cœurs. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. On l'a chanté avant. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. On connaît tout ça, n'est-ce pas ? Toutes ces choses, on les connaît. Et on oscille parfois entre le monde, dans l'église, mais vous savez, il y a quelque chose peut-être qui est encore plus vicieux, peut-être de plus subtil qui nous guette aussi. C'est quand les mauvais loups se trouvent dans l'église et qu'ils l'influencent. Quand les mauvais loups se trouvent dans l'église et qu'ils l'influencent. La semaine passée, Nilsson nous a donné un message. Il nous a parlé d'être des chrétiens contagieux. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Si c'est des chrétiens qui en possèdent le fruit de l'esprit. Mais si c'est des chrétiens qui possèdent le mauvais loup, alors on va amplifier le problème et créer des divisions, créer des partis pris, créer des clans, créer des disputes, des discordes, et j'en passe. Vous savez qu'une contagion, c'est rare hein, dans le monde quand on dit « Ah, c'est... » En général, quand on est contaminé, quand quelqu'un est contagieux, c'est qu'il est malade. C'est pas qu'il est en bonne santé. Quelqu'un est en bonne santé, va pas, tiens, toi qui es malade, tiens, voilà ma bonne santé. Par contre, quelqu'un qui a la grippe, il éternue et puis ça contamine tout le monde. C'est beaucoup plus facile dans ce sens-là que dans l'autre. Donc la contagion est très bonne, pour autant que ce soit une contagion des fruits de l'esprit. En Corinthiens chapitre 1, verset 10, « Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, qu'il n'y ait pas de division, je répète, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. » Adam, il y a 2-3 semaines, nous a donné aussi un message. Vous voyez, c'est curieux parce que dans les études, je pique un peu des idées qui sont venues d'autres études. Il a mentionné, entre autres, que nous pourrions être aussi des coquilles vides. C'est quelque chose qui m'a choqué. Choqué, je dirais, donc positivement, parce que ça m'a fait réfléchir. La coquille vide, c'est quelque chose, c'est une foi d'apparence. Une foi qui n'a pas de fondement, ou qui n'a plus de fondement. Quelque chose qui a été, mais qui n'est plus. Elle est vide pour Dieu. Mais si cette coquille est vide pour Dieu, vous savez, quand le vide s'installe quelque part, il y a vite quelque chose d'autre qui vient combler ce vide. Et là, on peut très bien penser que c'est notre mauvais loup qui vient combler cette coquille vide. Matthieu chapitre 15, verset 8, je redis une fois, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » La coquille vide. Jésus a enseigné ceci dans plusieurs exemples. Rappelez-vous le bon samaritain. Ce n'est pas pour rien qu'il parle qu'il y a toujours des gens, des prêtres, des gens de la loi, des hommes de Dieu qui passent à côté de la personne qui est souffrante, qui est blessée, sans amour, sans compassion. Rappelez-vous aussi du pharisien et le péager qui sont en prière. Et le pharisien qui dit « Je fais ceci, je fais cela, je donne la dîme, je fais machin, je fais des prières, je suis… » etc. Oui, c'est très bien. Mais il n'est pas justifié. Parce que je pense aussi que malgré le fait qu'il fasse beaucoup de choses, comme on peut en faire beaucoup de choses dans l'Église, beaucoup d'actions, que peut-être notre cœur pourrait être éloigné de Dieu. On a fait des tas de choses, et ça c'est très bien, mais peut-être qu'on a oublié l'essentiel. Matthieu chapitre 23, verset 23 nous dit « Vous avez oublié l'amour, oublié la compassion, oublié le pardon ». Oubliez la justice, la bonté et la fidélité. Et pourtant, les pharisiens, je suis sûr, étaient convaincus qu'ils étaient dans le juste et qu'ils étaient agréables à Dieu, qu'ils agissaient selon sa volonté. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils n'ont pas accepté les enseignements de Jésus. Vous savez que Paul était quelqu'un qui était, avant sa conversion, quelqu'un de très zélé, était très motivé pour la loi. Et il persécutait l'Église en toute bonne foi. Il a approuvé la lapidation d'Étienne. Et quand ses cieux se sont ouverts, quand Jésus lui est apparu, alors là, il a compris qu'il avait nourri le mauvais loup. Pour nous aussi, peut-être que dans certains examens, peut-être que nous pouvons réaliser qu'on a nourri le mauvais loup, parfois. Mais c'est quelque chose qui peut arriver, bien sûr, mais il y a un mot qui est aussi extraordinaire, je trouve, et qu'il faut qu'on applique à 100%, et ce mot, c'est le pardon. Jésus nous enseigne qu'il faut pardonner, non pas jusqu'à 7 fois, comme lui demandait Pierre, 7 fois était quelque chose déjà d'immense, mais Jésus va lui dire qu'il faut pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois, en Matthieu chapitre 18. Donc il faut pardonner, il faut savoir demander pardon et il faut savoir pardonner. Mais quelque chose qui est mieux encore, il vaut mieux ne pas blesser quelqu'un que de le blesser et ensuite demander pardon. Je me rappelle, quand je travaillais à l'aéroport, il y avait un ingénieur qui avait un but, qui était toujours des bons buts de construction, des nouveaux projets, etc. Et il fonçait dans ce but vers son objectif, et il y parvenait. Seulement, quand il était arrivé à son but et qu'il se retournait, il se rendait compte qu'il y avait plein de choses qu'il avait détruites derrière. Des installations qui ne fonctionnaient plus, qu'il n'avait pas tenu compte, etc. Et ensuite de ça, il y avait beaucoup de choses qui étaient à réparer. Alors que si cette personne avait mieux analysé toujours en fixant son objectif, ça aurait été toujours plus intelligent, faire peut-être beaucoup moins de dégâts que de tout casser et ensuite de demander pardon. Parce que lorsqu'on blesse quelqu'un, même si le pardon est là, la blessure, elle reste quand même. Il y aura toujours une cicatrice. Le pardon. L'histoire de deux amis qui marchaient sur une plage. À un moment, ils se disputèrent et l'un des deux donnait une gifle à l'autre. Ce dernier, après avoir s'être un peu remis, mais sans rien dire, écrivit dans le sable « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a donné une gifle. » Puis ils continuèrent à marcher, puis ils se sont baignés et l'ami, la personne qui avait reçu la gifle, a manqué se noyer. Et son ami l'a sauvé. Et quand il se fut remis, il a pris un stylet, un burin, et il a écrit sur une pierre « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie. » Celui à qui on avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui demanda quand je t'ai blessé. Pardon, celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui demanda quand je t'ai blessé, tu as écrit sur le sable. Hein, quand je t'ai donné sur la gifle, tu as écrit sur le sable. Et maintenant, tu écris sur la pierre. Pourquoi ? Et l'autre ami lui répond quand quelqu'un nous blesse, nous devons l'écrire dans le sable, où les vents du pardon peuvent vite l'effacer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver dans la pierre, où rien ne peut l'effacer. Je trouve que cette petite histoire est quelque chose qui est tellement extraordinaire. Mais quand j'y réfléchis, je pense que bien souvent, nous agissons de cette manière, mais nous faisons l'inverse. Quand quelqu'un fait du bien pour nous, on l'écrit sur le sable. Et quand quelqu'un nous fait du mal, on l'écrit sur le rocher, où rien ne peut l'effacer. Il faut qu'on pense à ce que Jésus a fait pour nous. Il faut qu'on pense à l'amour. Il y a quelques semaines, je me rappelle aussi, ça m'a fait sourire, Michel devait faire une lecture. Et il voulait lire 1 Corinthiens 13. Mais je me rappelle qu'il a dit, je ne vais pas le lire parce que je le lis et ça ne sert à rien parce que ça ne change pas. Eh bien justement, on va le lire. On va le lire parce que même si ça ne change pas, on va le lire et le relire jusqu'à ce que ça change. Parce que parfois, vous savez, il faut répéter les choses. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. On ne va pas tout lire parce que ça fait pas mal de choses. Mais il va dire, si je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et il parle là de quelqu'un qui comprend toutes les Écritures. Si j'ai les dons de prophétie, de la compréhension, de tous les mystères, de toute la connaissance, on pourrait imaginer vous posséder la Bible à 100%. C'est très bien, mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Et même si je donne tous mes biens aux pauvres, si je livre mon corps aux flammes, comment est-ce qu'on peut faire ça sans amour ? Mais apparemment, c'est possible. Mais si on fait toutes ces choses et qu'on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Et maintenant, le passage qui suit, toujours en Corinthiens 13, les versets 4 à 6. Il va nous dire qu'est-ce qu'est l'amour, toutes les caractéristiques de l'amour. Il dit que l'amour est patient, que l'amour est plein de bonté, que l'amour n'est pas envieux, que l'amour ne se vante pas, qu'il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Vous voulez qu'on le relise ? C'est nécessaire de le faire. Peut-être pas cette fois, mais relisez-vous chez lui et faites peut-être ce petit exercice. Regardez Jésus. Prenez chaque expression. L'amour est patient. Quelle était la patience de Jésus ? Dans quel cas il a montré sa patience ? Dans quel cas Jésus était plein de bonté ? Dans quel cas Jésus n'était pas envieux ? Dans quel cas Jésus ne s'est pas vanté ? qu'il ne s'est pas enflé d'orgueil, etc. Regardez chaque fois Jésus, et vous verrez quand vous arrivez qu'il a tout pardonné. C'est pour ça que nous avons pris ce repas du Seigneur, qu'il espère tout et qu'il supporte tout. Il a tout supporté sur la croix pour nous. Quels sont les loups que nous avons en nous? Comment est-ce que nous les nourrissons? J'aimerais terminer cette petite exhortation par une prière tirée du psaume 86, versets 11 à 13. Enseigne-moi tes voies, Éternel, je marcherai dans ta vérité. Donne-moi un cœur tout simple, que je craigne ton nom. Je te célébrerai de tout mon cœur, et non pas avec un cœur partagé, Seigneur mon Dieu. Et je glorifierai ton nom toujours, car ta bienveillance est grande envers moi, et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. Donne-moi un cœur tout simple, que je craigne ton nom. Je te célébrerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Celui qui a un cœur humble, nous a dit Doyle la semaine passée, est un artisan de la paix.